Bonjour à toutes et tous, je suis Vincent, animateur en agroécologie pour l'association Les Jardins Reconnaissants et très très heureux de vous proposer une chronique autour du jardinage naturel, donc sur Radio MDM. On va parler jardinage, les bons gestes au jardin à effectuer au mois d'octobre et nous allons parler, bien sûr, vous l'avez deviné, de tout ce qui est naturel. Important de le préciser, puisque nous ne parlerons pas d'intrants chimiques, nous ne parlerons pas de pétrole, nous ne parlerons pas d'insecticides, de pesticides, mais tout ce qui est naturel, tout ce que nous avons à notre disposition pour justement recréer un écosystème où cohabitent les végétaux, les animaux et les êtres humains. Donc nous sommes au mois d'octobre et donc nous allons parler des gestes à effectuer donc au jardin en octobre. Et je suis très très heureux d'être avec vous et d'être accompagné de Lydie. Lydie qui est une animatrice aussi de l'association, une animatrice reconnaissante qui est passionnée de jardin, avec qui nous travaillons beaucoup beaucoup. Elle est intervenue à la refaite du troc à Saint-Pierre-du-Mont. On a parlé récolte de graines, conservation de graines et aujourd'hui, Lydie va nous parler, va se présenter un petit peu très très rapidement et va nous parler de son jardin, va nous parler donc des gestes à effectuer au jardin, ses techniques très 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 personnelles. Donc très heureux. Salut Lydie.
Bonjour Vincent.
Donc petite présentation rapide de qui tu es, de ce que tu fais, pourquoi le jardin c'est ta passion, le jardinage, qu'est-ce que tu as à transmettre. On va parler donc des gestes au jardin à faire en octobre, puisque c'est quand même un mois important lorsqu'on jardine. Et tu vas nous expliquer pourquoi.
Bonjour, tous les mois sont importants au jardin. Alors, donc voilà, je m'appelle Lydie, j'ai 56 ans. J'habite sur Mont-de-Marsan depuis 21 ans. Je jardine sur un terrain de ville, 800 mètres carrés, moins la maison et tout ce qui est terrasse, etc., etc. Alors évidemment, c'est un jardin qui est en constante évolution. Je jardine au naturel et j'ai de la poussière de sable, comme beaucoup. Donc c'est du trémélimélo, c'est planté serré, j'ai des ombres portées. Voilà, chaque année, j'essaye de faire des choses différentes et chaque année, j'agrandis légèrement le jardin potager. Donc mon outil préféré, eh bien c'est la fourchette. Je jardine à la fourchette.
À la fourchette, c'est-à-dire ?
Eh bien, déjà j'ai aucun retournement du sol, j'ai beaucoup de paillis. Donc de ce fait, eh bien quand je veux planter ou semer, j'écarte un petit peu le paillis, petit coup de fourchette, voilà, et puis on plante.
D'accord. La fourchette, dis-moi Lydie, le jardin, tu jardines donc depuis quand même un petit moment et tout ce qui est biodiversité, écosystème, forcément ça te parle, c'est important pour toi. Quand on parle de jardin, on parle forcément d'alimentation, mais on ne parle pas que l'alimentation pour les humains, mais aussi pour les animaux, des animaux qui sont utiles au quotidien et surtout au jardin, on va en parler je crois dans cette chronique.
Tout à fait. Le plus important pour moi, c'est de respecter la totalité de la vie au jardin. Donc tout ce qui est, qu'on est susceptible de voir et tout ce qu'on est susceptible de ne pas voir, c'est-à-dire tout ce qui est dans le sol aussi.
D'accord, très très bien. Donc forcément, on va parler de récolte.
Oui.
On va parler de semis. On va parler de plantation. Et des gestes aussi pour la faune, parce que comme tu viens de le dire, les animaux sont importants, ces auxiliaires de jardin dont il faut prendre soin. On prend soin du sol, on prend soin donc de cette terre. On va parler aussi du zéro déchet au jardin, très très important de faire avec ce qu'on a sur place, parce que justement on l'a dit en introduction, on va pas parler de pétrole, donc on va pas utiliser de voiture pour aller chercher des matières organiques, mais plutôt utiliser ce que nous avons sur place.
Tout à fait. Alors, je suis une adepte du zéro déchet au jardin. Donc, j'aime bien réutiliser au maximum, eh bien, par exemple, des objets qui pourraient être destinés soit à la poubelle, soit à la déchetterie. Par exemple, on va mettre de la paille dans des vieilles passoires. Comme ça, on a nos petits forficules qui vont passer l'hiver tranquille. Et puis, l'été, on les aura à l'abri des oiseaux. On peut faire avec des palettes mises les unes sur les autres un abri faune. On va pas dire un abri insecte, on va dire un abri faune. Parce que finalement, une musaraigne peut y aller, un hérisson peut y aller, mais après, beaucoup de petits animaux, des lézards, peuvent y nicher aussi. On a aussi les louches. Moi, j'ai des louches au jardin, un petit peu à droite à gauche. Mmh. L'été, on a besoin d'avoir de l'eau au jardin. Et quand on n'a pas de mare, eh bien, ça fait partie des petits points d'eau qu'on réserve finalement à tous les insectes.
Dis-moi, Lydie, on est en automne. On a eu un été où il y a eu justement une sacrée sécheresse. Est-ce que toi, tu récoltes encore dans ton jardin ?
Tout à fait. Alors, on récolte encore, par exemple, des tomates. Alors, les tomates vertes, ce n'est pas la peine de chercher différentes techniques pour les faire mûrir. Elles ne seront pas terribles gustativement. L'idéal, c'est de les cuisiner et de les cuisiner vertes. C'est-à-dire, vous les cueillez et tant qu'elles sont encore pleines de vitamines, qu'elles sont pleines de nutriments, vous faites, par exemple, des chutneys de tomates vertes. Éventuellement de la confiture, mais personnellement j'aime beaucoup le chutney de tomates vertes parce que par exemple avec un petit foie gras à la fin d'année ça va être hyper sympa. Et pour ceux qui ne consomment pas de viande ou de charcuterie, une cuillère à café détendue avec une petite vinaigrette font une sauce qui va réveiller une salade d'endives ou une salade tout court.
D'accord, moi tu vois, moi je ne connaissais pas chutney. Tu consommes ça régulièrement ?
De temps en temps. Disons qu'un chutney, c'est comme une confiture, mise à part que dedans, on a un petit peu de vinaigre.
D'accord, ok. Je ne savais pas. Merci pour cette info. En octobre, qu'est-ce qu'on sème au jardin ?
Alors, on va semer des épinards. J'aime bien semer la variété Matador, qui est une variété qui est faite pour les jours courts. On a moins de luminosité et c'est une variété qui est tout à fait adaptée. Ensuite, on a de la mâche. On a la roquette aussi qu'on peut semer. Et les radis. Alors, les radis, on peut encore les semer sans aucune protection. Mais à partir de fin novembre, il faudra les protéger. On a les fèves aussi qu'on peut commencer à semer. Mais les fèves, on n'est pas non plus hyper pressé. On a jusqu'à début décembre pour semer des fèves. On a les petits pois. Alors, les petits pois, j'aime bien petit provençal. Qui a grain rond, donc qui résiste bien au froid, au cas où on aurait quand même un hiver un petit peu plus rude que celui de l'an dernier. Il est nain et il fait 50 cm de haut, donc on n'a pas besoin de lui prévoir de quoi grimper. On a ensuite les petits mangetous comme corne de bélier, alors à ramer, 1,50 m de haut, donc là, entre deux piquets, tout simplement, on va mettre un petit peu de grillage, on ne va pas s'enquiquiner. Ou alors, tout simplement, on va le semer juste à côté d'un grillage de clôture. Et comme ça, on est tranquille, il va grimper à la hauteur où il voudra. Et nous, on ne s'enquiquinera pas à rajouter un grillage supplémentaire ou à mettre des rames. Après, on peut encore semer la scarole d'hiver. Mais la scarole d'hiver, on va la semer un petit peu lâche. On va la mélanger, par exemple, à du sable ou à du marc de café. Donc, on va la semer très lâche de manière à ne pas avoir à la dédrucir. Et au printemps, ça va faire partie de nos premières verdures du printemps. On va la manger un petit peu comme on mangerait du mesclun.
D'accord.
Ensuite, on a les engrais verts.
Alors justement, les engrais verts, on en parle beaucoup à l'association Les Jardins en Reconnaissance, puisque c'est une période où on en sème. Toi, tu as choisi de nous parler de quelques-uns d'entre eux, le trèfle incarnat.
Tout à fait. Le trèfle incarnat a la particularité de résister au gel. Il fleurit au printemps et il est très mellifère. Il attire beaucoup d'abeilles, mais pas que. On a aussi les cirfes, on a des bourdons, on a les petites rousses qui sont attirées par le trèfle incarnat. Il n'est pas trop haut, donc si jamais on a un petit coup de vent, il ne va pas se coucher.
D'accord.
Et il ne va pas masquer éventuellement certains végétaux qui vont être un petit peu plus grands.
D'accord. Et nous avons ensuite la facélie.
Tout à fait. La facélie, je préfère la semer au printemps parce que, bon, déjà, elle est très jolie parce qu'elle est bleutée. Mais sa particularité, elle, c'est qu'elle gèle. Donc voilà pourquoi il vaut mieux la semer au printemps. Ou alors, si on la sème maintenant, eh bien, le gel va la coucher, tout simplement, et elle va se décomposer et nous préparer le sol, finalement, pour le printemps.
Très important, la préparation du sol.
Tout à fait.
Très bien. Concernant la facélie, justement, il y a un petit avantage avec la facélie, c'est qu'elle attire aussi les pollinisateurs.
Tout à fait. Comme le trèfle incarnat, ça fait partie d'un végétal phare au niveau de la pollinisation et surtout dans l'attractivité pour amener tous ces insectes au niveau du potager. Après, on a aussi le trèfle blanc et le trèfle violet. qui remplissent très très bien leur office. On en a d'autres, hein. On a aussi le sarrasin entre autres, et on a la moutarde. La moutarde, si vous la semez maintenant, sa particularité, c'est qu'au cœur de l'hiver, vous allez couper 2-3 feuilles, les ciseler et les mettre dans, par exemple, une salade verte, ou alors quand vous aurez cuit un risotto ou une soupe, les mettre juste avant la consommation, ça va un petit peu réveiller les papilles.
Très bien. Donc, le facélie, trèfle blanc, moutarde. Est-ce que toi, tu sèmes du sarrasin au jardin ?
On peut en semer. Là, je dois avouer que j'en ai acheté. Donc, oui, j'ai prévu d'en semer. D'accord. Donc, je vais semer ça d'ici une dizaine de jours. Si la météo le permet, toujours pareil.
D'accord. Le sarrasin est un engrais vert.
Tout à fait. Ça fait. Mais après, beaucoup de végétaux font partie des engrais verts. C'est-à-dire que, par exemple, la fève que l'on va semer, une fois qu'elle aura donné, on va dire, elle va donner à partir, par exemple, du mois de mars-avril, on va, par exemple, planter des tomates juste à côté. Et quand notre fève aura fini sa production, on va la couper en gros tronçons de 10-12 cm à peu près, et on va empailler les tomates.
Super. Nous, au jardin à Saint-Pierre-du-Mont, au potager agroécologique, on aime beaucoup semer les fèves, puisqu'à un moment donné, on a une colonie de pucerons qui arrive dessus. Alors, c'est assez improbable de tenir ce discours-là, mais au final, on attire aussi le prédateur du puceron, qui est la coccinelle. Donc, à chaque fois qu'on nous demande comment vous faites pour attirer les coccinelles, on met dès l'automne des fèves. Et là, des fèves, on en a beaucoup. Juste à côté, on met de la moutarde mélangée avec de la facélie aussi. Donc, tu viens d'en parler. Ce sont trois engrais verts qu'on utilise énormément. Et ça, au jardin potager, les engrais verts, on en parle souvent. Voilà. Il y a quelque chose que je voudrais te parler aussi, Lydie, c'est cette fameuse fixation d'azote qu'on parle souvent lorsque justement on parle de fèves, lorsqu'on parle de trèfle. Quel est ton avis là-dessus ?
Il ne faut pas focaliser sur l'azote. Hein. On a besoin de tout. On a besoin que tout s'équilibre dans un jardin. Donc l'idéal, c'est de faire des apports très diversifiés. Et c'est comme ça qu'on aura un sol qui va être relativement complet pour nourrir nos végétaux.
D'accord. Très très bien. Parce que moi, je parle justement de fixateur d'azote avec tous ces engrais verts. Mais au final, il ne faut pas faire une fixette dessus.
Alors après, oui, effectivement, l'azote est quand même un élément primordial puisqu'il encourage la pousse. Hein. C'est pour ça qu'on sève entre autres des fabacées, donc les fèves, les petits pois, et en plein été, on sèmera aussi de ce fait les haricots verts, parce qu'ils ont la particularité de capter l'azote de l'air, et au niveau des racines, on a des petites nodosités, donc comme des petites boules qui se forment, et quand ces petites boules de blanches passent légèrement en rosé, l'azote est disponible pour les autres végétaux qui vont se nourrir. Alors tout simplement, il suffit de ne pas arracher les racines, mais on coupe et toute la racine reste en place. Elle se décompose et ça, c'est la fertilité pour la, voire les saisons suivantes.
Super. On a fait le tour des semis.
Tout à fait.
On va parler plantation maintenant. Qu'est-ce que toi, tu plantes dans ton jardin en octobre ?
Alors, quand on est dans le sable, l'ail, on a tendance à oublier un petit peu parce qu'on a de très mauvais résultats. Par contre, vous avez quelque chose qui est très intéressant, c'est l'ail éléphant qui n'a pas, on va dire, exactement le même goût que l'ail dans le sens où il n'a pas la même force, mais il reste intéressant et justement, il est très apprécié des enfants contrairement à l'ail classique. Et on peut consommer, comme l'ail classique, on peut consommer les feuilles aussi.
D'accord. Le choucal, les choux, tu veux en parler un peu ? Toi, t'en plantes dans ton jardin ?
Tout à fait. Le chou kale et le chou cavalier, moi j'aime beaucoup parce que dans les petits jardins, ce sont des choux qui ne pomment pas, donc on les cueille feuille à feuille. On a besoin de 2-3 feuilles, pouf ! On prend 2-3 feuilles du chou qui nous intéresse. Et au niveau des chou kale, on a aussi du chou kale pourpre. Et c'est quand même assez sympa au niveau des crudités de mettre un petit peu de kale dans une salade composée.
D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre comme plantation à effectuer au mois d'octobre là ?
On continue à repiquer toutes les salades d'hiver, donc la brune d'hiver et l'escarole d'hiver, qui sont donc la cornée de Bordeaux et la cornée de Ruffec. L'escarole d'hiver qui sont dénominées cornées sont très résistantes au froid. enfin, dans les froids du sud-ouest, s'entendent, bien évidemment. Ensuite, on a quand même tous les bulbes de printemps, qui sont les narcisses, les jonquilles, les muscaries, perce-neige, anémones, qui vont nous mettre de jolies touches de couleurs au jardin, et les crocus. Alors, les crocus, je vais vous donner un tout petit tuyau. Moi, les crocus, j'aime bien, vous les sortez du sachet, vous les jetez dans la pelouse. Et comme vous les jetez, et bien après, vous les enterrez très légèrement. Et ça vous permet comme ça d'avoir des petites touches de couleur au milieu de la pelouse.
Super. Pareil, au jardin reconnaissant, on parle beaucoup de couverture de sol. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu as une couverture de sol préférée que tu as envie de parler ou pas du tout? Comment toi, tu fonctionnes dans ton jardin?
Alors pour moi, la couverture du sol, elle doit être permanente, comme dans la forêt. C'est-à-dire, il ne nous viendrait pas l'idée d'aller à la plage sans crème, sans parasol. Eh bien, le sol, il doit être constamment couvert, parce qu'on évite comme ça les dégradations de l'humus, parce que les UV ne sont pas bons pour le sol. Donc, de ce fait, eh bien, ça va être des feuilles de chêne, ça va être... j'aime pas trop la feuille de platane, hein, franchement, qui est un petit peu coriace, un peu grande, mais les feuilles de chêne, c'est une merveille. Et pour les petits fruits rouges, par exemple, donc tout ce qui est fraisier, tout ce qui est framboisier, mûr, groseillier à maquereau, groseillier, cassis, l'idéal, c'est de pailler avec des épines de pin, parce que les aiguilles de pin, leur particularité, c'est que ça donne un goût très, très savoureux au niveau des petits fruits rouges.
D'accord, c'est très acide, les épines de pin.
C'est pas hyper acide. Les gens se font tout un truc au niveau de l'acidité de tout ce qui vient des résineux. En réalité, les acidifications ne se font que sur des temps très 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 longs. Et après, il ne faut pas oublier que les fraisiers sont quand même légèrement acidophiles.
Ils en ont besoin.
Tout à fait.
Très très bien. Continuons. Le compost, je voulais parler aussi du compost avec toi. Est-ce que tu as un composteur ou des composteurs au jardin ?
Alors oui, j'ai deux composteurs. Un composteur avec le compost en cours qui est en train de se faire et un composteur là qui a été vidé, que j'ai déjà épandu au jardin. Et voilà. Et après, alors nous c'est un petit peu différent. Moi j'ai quelqu'un qui partage ma vie, qui a besoin d'un cadre donné. Donc lui met dans le composteur. En ce qui me concerne, j'ai un côté un petit peu plus fun au jardin. Donc je mets un petit peu au milieu des salades, un petit peu au milieu des massifs, un petit peu au pied des... Voilà. Donc moi, le compost, je fais comme la nature, je laisse se composer naturellement un petit peu à droite à gauche.
D'accord, très très bien. Tu as envie de nous parler des bons gestes aussi, la taille, le soin qu'on peut apporter à certains végétaux?
Tout à fait. J'aurais voulu faire juste un petit aparté. Quand on met du compost ou éventuellement du fumier bien décomposé, alors il faut pas l'enfouir. Hein. Allez-y mollo au niveau du jardin. Vous mettez ça un petit peu comme ça sur vos paillis. Et comme le fait la nature, hein, puisque dans la nature, les animaux font des petits pipis, des petits cacas. Et puis, ça rejoint les bonnes strates au bon moment. Donc, on laisse un petit peu faire. On met ça sur les paillis et la nature se débrouillera toute seule.
Tu m'as dit tout à l'heure qu'au niveau des agrumes de ton compost, tu es plutôt favorable ou pas du tout?
Alors, un compost, pour moi, pour qu'il soit équilibré, il faut mettre un petit peu de tout. Alors, comme tout le monde, je consomme des agrumes, principalement quand même ceux du jardin, puisque j'ai la chance d'avoir des agrumes plantés en pleine terre ou en plein sable. Donc oui, je mets tout ce qui est végétal au niveau du compost. Je mets aussi tout ce qui est petits bouts de carton déchiqueté, puisque moi, je préfère conserver tout ce qui est feuilles, tout ce qui est broyat pour les planches potagères et pour pailler les fruitiers. Donc de ce fait, ce qui est un peu moins noble, entre guillemets, à savoir les cartons Kraft non blanchis au chlore, je les réserve coupés en petits bouts au compost. Ça me fait ma partie carbonée.
D'accord, super. Dis-moi donc très très rapidement les bons gestes au niveau de la taille du soin que tu apportes aux végétaux durant le mois d'octobre.
Alors au niveau de la taille, on peut tailler les délagnus, on va broyer. Et ensuite, on va pailler, j'en ai déjà parlé, on va pailler donc les planches de culture avec. Et par contre, on ne coupe pas ni le laurier palme, ni les thuyas. Et on coupe par contre les framboisiers à mi-hauteur, à peu près à 60 cm du sol.
Très bien Lydie, merci beaucoup pour tout ce qui est jardin. On a fait le tour à peu près des choses à faire au jardin, enfin dans ton jardin en tout cas.
Tout à fait. Après, chacun envisage son jardin, évidemment, comme il le veut. On respecte totalement vos choix et vos gestes au jardin. C'est notre manière de faire au jardin reconnaissant sur le jardin partagé. Et par exemple, dans mon jardin, voilà, le plus important et le maître mot, c'est le respect. Après, il faut s'ouvrir à de nouvelles pratiques dans le respect total de la nature et de la biodiversité.
Tout à fait, c'est vrai que nous sommes adeptes de l'expérimentation, donc on n'a pas d'idée arrêtée vraiment sur le jardinage, on sait où on va, dans quelle direction, mais on aime expérimenter et surtout on aime s'enrichir des connaissances, du savoir-faire, du savoir-être aussi, et des compétences des jardiniers différents qu'on rencontre sur notre chemin, et on apprécie beaucoup, beaucoup toutes ces rencontres. Donc oui, merci beaucoup Lydie pour tous ces petits conseils, et puis aussi sur ta façon de voir le jardinage et de la manière dont tu jardines chez toi. Pour finir très très rapidement cette petite chronique reconnaissante, tu as décidé, Lydie, de nous parler d'une petite recette, puisqu'on va finir cette chronique sur une recette, et tu as choisi de nous parler du clafoutis.
Tout à fait. Alors le clafoutis, c'est quelque chose d'assez universel. Alors ce que je vous propose, c'est une recette de base, un petit peu modifiée quand même, je dois vous l'avouer, qui se décline tout au long de la saison et des saisons de l'année. C'est-à-dire, on va le consommer froid à la belle saison ou tiède, voire chaud, quand la météo va l'imposer. En automne, on a les prunes et les figues. L'hiver, les pommes, les poires. Au printemps, ça va être la rhubarbe, les fruits rouges. Et en été, alors là, on a un grand choix, on a les cerises, les abricots, les pêches, les mirabelles, les nectarines. Ou alors en méli-mélo, quand on a cueilli une poignée de figues, 10 prunes et qu'il reste une pomme et une poire dans le compotier. Donc pour aujourd'hui, je vous propose donc un petit saladier. Dedans, vous mettez 150 g de farine, 120 g de poudre d'amande, 120 g de sucre en poudre, 4 œufs entier, cru, 80 g de beurre fondu, mais pas chaud, 20 cl de crème fraîche liquide ou l'équivalent en lait, 450 à 500 g de fruits nets de déchets. Le four devra être préchauffé à 150 degrés. Il faut compter une heure de cuisson à peu près. Donc c'est une recette simple qu'on peut réaliser avec des enfants. Par exemple, un petit tableau de conversion pour les centilitres et les millilitres, c'est une manière sympathique de faire des mathématiques. Pour les végétariens, on remplacera la crème fraîche par du tofu soyeux et le beurre par de l'huile, par exemple, de noisette ou d'amande. Et pour les gens qui sont sans gluten, on remplacera la farine de blé tout simplement par une farine de sarrasin qui va être très savoureuse.
Super, ça donne envie. Merci beaucoup pour cette recette. Dis-moi, là, c'était une recette sucrée.
Oui.
Le mois prochain, ça sera une recette salée.
Tout à fait.
T'as déjà ton idée dessus ?
Oui.
Laquelle ?
Oui. Ah.
Surprise ?
Ah, oui.
Très bien, merci, il faut en garder un petit peu. On va conclure très 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 rapidement et surtout on va parler vraiment des grandes généralités, des points qu'on va aborder le mois prochain, c'est-à-dire au mois de novembre, au jardin, les gestes à effectuer. Tu veux nous dire vite, très très rapidement, quelques mots sur, à faire, sur ce qu'on va évoquer dans un mois ?
Le mois prochain, on évoquera les plantations, on évoquera aussi le nettoyage du jardin ou pas, et l'hivernation de nos auxiliaires qui sont très précieux au jardin. Et en attendant, faites des petites choses, mais procrastinez aussi.
C'est important.
Très.
Et on vous donne bien sûr rendez-vous samedi à 14h au jardin, au potager agroécologique de Saint-Pierre-du-Mont, au 152 rue de la Dominante, où on se donne tous rendez-vous pour justement mettre en place toutes ces pratiques, tous ces gestes naturels au potager agroécologique donc de Saint-Pierre-du-Mont. On vous attend. Merci beaucoup. Et puis Lydie, au mois prochain.
Au mois prochain.
Adi Chats.
Adi Chats.